Hein. Bien. Merci d'avoir fait l'effort de me dire. Je vais donc vous parler ce soir de médiation. Et vous voyez à l'écran le symbole qui a été choisi pour illustrer le thème de la médiation. Le symbole, c'est l'iceberg. C'est l'iceberg dont nous savons tous que la partie immergée que l'on devine sur la photo est beaucoup plus importante que la partie émergée. C'est en quelque sorte le symbole du conflit. Le conflit entre deux personnes, il émerge souvent sur un point, mais il est bien plus profond. Et si on ne résout que le point qui émerge, on ne résout rien. Le conflit ressortira, car il y a bien d'autres questions derrière. Prenons l'exemple du conflit conjugal, des gens qui se séparent et qui vont, à l'occasion de leur séparation, se battre sur une histoire de partage de mobilier, par exemple, quelque chose qui est sans intérêt. Mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est pas les petites cuillères, c'est pas la question dont on doit partager les petites cuillères, c'est tout le passé, tout l'accumulation des occasions de conflit, et il ne suffit pas de répondre à la demande émergente, à la demande de partage du mobilier. Il faut souvent aller creuser un petit peu plus loin et voir quelles sont les raisons profondes du conflit. C'est la raison pour laquelle donc a été choisi ce symbole de l'iceberg. Alors, voilà. La médiation, un mot à la mode, un phénomène de société, c'est vrai qu'on en parle partout. On parle beaucoup de médiation, y compris dans des domaines où ça n'est pas tout à fait adapté. Ce dont nous parlons, nous, ce soir, c'est d'une méthode de résolution des conflits. La résolution des conflits, elle est de manière classique acquise par la voie judiciaire, le recours au juge. Mais depuis un certain temps, on essaie d'imaginer d'autres méthodes de résolution des conflits. Et la médiation est un de ceux-là. Et mon PowerPoint ne veut pas passer. Je ne dois pas faire ce qu'il faut.
Au secours.
Au secours, monsieur le technicien. Suivant. Non, si je clique sur suivant.
Ça...
Qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut ? Ah ben, c'est ici. D'accord. D'accord. Alors, on disait la médiation, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans les litiges entre les personnes. On va parler aussi de médiation dans des domaines qui ne nous intéressent pas forcément directement dans notre vie quotidienne, mais on a effectivement des exemples de médiation sur le plan international. Il a été signé une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ça date de 1907, ça n'est pas d'hier, qui offre la possibilité pour un État de proposer une médiation entre deux pays en guerre. Nous en avons un certain nombre d'exemples. L'exemple de la Bosnie a été cité. Nous avons, alors c'est pas réellement sur le plan international, mais ça s'y apparente, un exemple assez classique, ça a été la résolution il y a quelques années du conflit en Nouvelle-Calédonie. Vous avez en souvenir certainement que ça s'était passé de façon extrêmement violente et que les deux parties avaient des attitudes très radicales. C'est un conflit qui s'est réglé par la voie de la médiation et qui s'est réglé, semble-t-il, dans d'excellentes conditions, puisque ce conflit a été apaisé. Dans les institutions publiques nationales et communautaires, nous avons également des textes qui régissent la médiation. La création par le traité de Maastricht du 2 février 1992 du médiateur européen Et la création, en 1973, du médiateur de la République est devenu le défenseur des droits. Alors, le médiateur de la République, ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse directement aujourd'hui. On va parler d'autre chose, on va parler de médiation entre les personnes. Le médiateur de la République, lui, il a pour mission de régler des conflits entre, d'un côté, des personnes privées et, d'autre part, des administrations. Ce n'est pas exactement notre sujet. Nous avons également l'emploi du mot de médiation dans des domaines, et là on se rapproche un petit peu de ce qui nous intéresse, la médiation familiale, la médiation pénale, la médiation sociale, médiation scolaire, et puis médiation au sein de divers grands organismes comme les banques, les compagnies d'assurance, les chaînes de télévision, la SNCF ou la Poste. Alors on va essayer de balayer un petit peu ces thèmes. La médiation pénale, le mot est à l'écran parce que ça s'appelle médiation. C'est quelque chose d'un petit peu particulier, la médiation pénale. Ce n'est pas encore ce qui nous intéresse directement. La médiation pénale, ça fait partie de ce que l'on appelle, en matière de réponse pénale, en matière de réponse de la justice à des infractions, ça fait partie de ce qu'on appelle la troisième voie. Auparavant, le procureur de la République, lorsqu'il avait connaissance d'un délit, avait le choix entre poursuivre la personne qui était recherchée pour le délit, ou à l'inverse, classer sans suite s'il estimait que ça ne valait pas le coup de poursuivre, mais il n'y avait pas de voie intermédiaire. Et aujourd'hui, le procureur de la République dispose d'une troisième voie qui est précisément les alternatives aux poursuites, parmi lesquelles la médiation. Alors la médiation pénale, ça consiste à inviter l'auteur et la victime à rencontrer un médiateur pour rechercher une solution de réparation. Et dans la mesure où cette réparation est acquise, les poursuites pénales ne sont pas engagées. Mais on voit bien que c'est une médiation un petit peu particulière, puisqu'elle se déroule toujours avec en arrière-plan la présence du procureur qui conserve la possibilité d'engager des poursuites. Autrement dit, l'auteur de l'infraction a tout intérêt à ce que la médiation aboutisse parce qu'il sera, dans ces conditions, exonéré des poursuites pénales. Et la victime a également intérêt à ce que, quitte à revoir un petit peu ses prétentions, la médiation aboutisse, parce que dans ce cas-là, si la médiation échoue parce que la victime est trop gourmande, eh bien c'est à l'inverse le risque d'un classement sans suite. Donc c'est une médiation un petit peu à part, puisqu'elle se passe toujours avec en arrière-plan la présence du procureur qui peut intervenir. Médiation sociale, médiation de quartier, c'est un petit peu ce que je disais au départ. On parle de médiation, mais on n'est pas non plus dans la résolution d'un conflit individuel, c'est plutôt des solutions d'aménagement des rapports sociaux et non pas de résolution d'un conflit en particulier. Médiation dans les grandes administrations ou dans les grandes sociétés comme les banques ou les compagnies d'assurance, c'est également un petit peu à part. Je dirais que c'est à la limite entre la médiation et le service après-vente, dans la mesure où il va s'agir, lorsqu'un conflit apparaît, par exemple dans une banque, entre la banque et le client, de rechercher une solution qui va être à la fois une solution de résolution du conflit, mais également d'aménagement des relations de la banque avec sa clientèle. Et c'est également quelque chose à part dans la mesure où le médiateur est un médiateur qui appartient à l'administration ou à l'organisme en question et qui n'est pas ce que nous considérons, nous, comme la condition importante pour être médiateur, qui n'est pas un tiers indépendant. Donc on est à la limite. Par contre, la médiation familiale, et on va avoir l'occasion d'y revenir, ça fait partie des médiations dont nous parlons ce soir. Alors, la médiation, disons la médiation entre les personnes, elle est institutionnalisée dans le cadre judiciaire par une loi du 8 février 1995 qui permet au juge, lorsqu'il est saisi d'un litige et qu'il aperçoit la possibilité que le litige se règle autrement que par une décision impérative, le juge a cette possibilité de proposer aux parties d'avoir recours au service d'un médiateur. On voit immédiatement l'intérêt. La médiation familiale, c'est l'un des exemples. C'est même l'exemple dans lequel ça se produit plutôt souvent par rapport aux autres domaines. On est dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. On a un litige en ce qui concerne, par exemple, le règlement des conditions de vie des enfants. Est-ce qu'ils vont aller avec le père, avec la mère? Est-ce qu'on va avoir une résidence alternée? S'ils sont avec l'un, quel va être le droit de visite de l'autre? Quelle va être la pension alimentaire à la charge de l'autre? Bon, ce sont des questions. Tout le monde sait bien qu'il doit y avoir un droit de visite, qu'il doit y avoir une pension alimentaire. Mais on s'accroche parce qu'il y a des aménagements particuliers à apporter à chaque situation. Et ce sont des domaines où, lorsque la discussion s'ouvre, eh bien, on arrive très souvent à dégager des solutions. Et cette possibilité ouverte par cette loi de 1995, ouverte aux juges d'inviter les parties à avoir recours à la médiation, eh bien, c'est une possibilité qui se trouve souvent dans cette matière. Donc, à la suite de cette loi, un certain nombre d'organismes de médiation se sont créés, et parmi ces organismes de médiation, un certain nombre a l'initiative des barreaux. Ce sont donc souvent des avocats qui ont créé des organismes de médiation, et c'est précisément ce qui s'est passé à Poitiers, où ce sont des avocats qui ont créé l'un des organismes de médiation qui opère actuellement dans la Vienne. Ça, c'est en matière judiciaire. Il existe également une médiation dans les domaines où le procès n'est pas engagé, où le conflit existe, mais où le procès n'est pas engagé. Je viens de dire le recours au juge, et le juge qui, en cours de procès, renvoie les parties vers un médiateur, mais ça peut très bien se faire également sans que le procès ne soit engagé. Des gens qui sont en conflit peuvent choisir d'un commun accord de recourir à un médiateur. Alors, définition de la médiation. Vous l'avez à l'écran, intervention dans un différend ou une négociation d'une tierce personne neutre et impartiale qui n'a pas de pouvoir décisionnel pour assister les parties, qui n'a pas de pouvoir décisionnel, il devrait peut-être y avoir, intervention pour assister les parties en vue d'atteindre volontairement un accord mutuel acceptable afin de résoudre le différend. On a donc à la base un litige, un différend, un conflit, appelons ça comme on veut, et les personnes qui sont en litige choisissent de recourir à une tierce personne neutre et impartiale. Neutre et impartiale, ça veut dire qui n'est pas lié à l'une des deux, qui n'a pas d'intérêt particulier, qui n'a pas de lien avec l'un ou l'autre, et qui va pouvoir se présenter véritablement comme quelqu'un d'absolument neutre. Il n'a pas de pouvoir décisionnel. Ça, c'est important. Pas de pouvoir décisionnel, ça veut dire que le médiateur n'est pas une sorte d'alternative au juge. On ne se remet pas au médiateur qui va vous imposer une solution. Le médiateur, il est là pour essayer de rapprocher les points de vue. Il y réussira ou il échouera. Mais il n'a pas la possibilité de vous dire « c'est comme ça que ça doit se passer, la solution elle est là et je vous l'impose ». pas de pouvoir décisionnel. Son but est de permettre aux partis de les assister en vue d'atteindre volontairement un accord mutuel acceptable afin de résoudre le différend. Volontairement. Volontairement, ça veut dire que tout au long du processus de médiation, les gens qui sont en conflit restent maîtres de leurs droits. Ils peuvent choisir de poursuivre la médiation. D'abord, il faut qu'ils choisissent volontairement d'y venir. Mais à chaque moment, ils peuvent choisir de la poursuivre ou de l'arrêter. Le médiateur, personnage sans pouvoir, c'est ce qu'on disait à l'instant, pas de pouvoir décisionnel, utilise les outils de communication et d'écoute qu'il détient pour parvenir à sa quête incessante, apaiser les tensions, retisser les liens distendus, renouer un dialogue interrompu, apporter la paix dans une société civile rongée par trop d'individualisme. Je crois que vous avez dans cette phrase des termes qui sont extrêmement forts, apaiser les tensions, retisser les liens distendus, renouer un dialogue interrompu. La médiation, l'indication de la médiation, c'est précisément à l'égard de personnes qui doivent continuer à vivre ensemble. Si vous avez un litige avec quelqu'un d'autre, de manière extrêmement ponctuelle, avec une personne que vous ne reverrez jamais, je dirais à la limite, ça n'est pas très grave que la solution du litige ne soit pas consensuelle, que la solution du litige vous soit imposée. Après tout, ce sera une fois et puis plus jamais. Maintenant, si ce litige, c'est entre deux parents qui se séparent et qui vont continuer à avoir des relations parce que pendant toute la minorité de leurs enfants, il faudra bien qu'ils se voient pour régler un certain nombre de choses. Si ce sont deux voisins qui sont en litige et qui doivent continuer à se rencontrer, si c'est un employeur et un salarié, sauf dans l'hypothèse du licenciement, un employeur et un salarié qui sont en litige alors que le contrat de travail n'est pas rompu et qu'ils doivent continuer à vivre ensemble. Dans tous ces exemples-là et dans bien d'autres exemples, il est important que le litige soit réglé, la partie émergée de l'iceberg, mais que soit également réglé tout ce qui n'est pas dit et qui est à l'origine du litige, la partie immergée. Il faut aller au fond des choses, il faut tout régler de manière à apaiser les tensions, retisser les liens, renouer le dialogue. C'est l'un des buts de la médiation. Valeur de la médiation, je vais peut-être dire un petit peu ce que j'ai déjà dit. Liberté, autonomie, responsabilité, confidentialité. Liberté, ça répond à ce que j'indiquais tout à l'heure, la médiation est une démarche volontaire. On n'est jamais forcé de venir en médiation. On y vient parce que l'on choisit de résoudre son conflit par cette voie, parce que l'on considère que c'est plus profitable, parce qu'on considère que la voie judiciaire n'est pas une bonne voie, et que c'est comme ça que l'on veut avancer. Autonomie, c'est précisément l'autonomie par rapport au règlement du conflit par la voie judiciaire. Responsabilité, c'est encore une autre façon de dire la même chose, c'est la responsabilité des gens qui s'impliquent dans leur conflit et qui ne s'en remettent pas à une autorité extérieure pour le régler. Confidentialité, c'est très important. Confidentialité, c'est important pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes en litige avec une autre personne, et là encore, reprenons les exemples antérieurs, c'est la médiation familiale, c'est les rapports entre voisins, c'est les rapports d'employeur à salarié, c'est les rapports du consommateur au professionnel, enfin bon, tous les litiges que l'on peut examiner, que l'on peut imaginer dans la vie de tous les jours, le locataire avec son propriétaire, etc., etc., la copropriété. Dans tous ces litiges, vous savez que si vous ne pouvez pas résoudre amiablement votre litige, vous vous retrouverez devant un juge. Si vous êtes passé par une mesure de médiation, que vous avez fait des concessions dans le cadre de cette mesure, et que malgré ça, la médiation n'a pas abouti, il est très important pour vous que si vous vous retrouvez demain devant le juge, on ne puisse pas vous dire « Ah mais oui, mais hier, vous étiez prêt à lâcher ceci ou cela ». Il ne faut pas que la négociation qui a eu lieu puisse se retourner, que la bonne volonté que l'on a mise puisse se retourner contre vous. Et à partir de là, il y a un impératif de confidentialité. Vous avez l'assurance que venant en médiation, jamais le médiateur ne dévoilera ce qui s'est dit devant lui. C'est un engagement que prend le médiateur, c'est un engagement que prennent les parties l'une vis-à-vis de l'autre. On recherche un accord, mais si on n'aboutit pas, il faut que chacun puisse reprendre ses droits. Si on était sur une discussion sur une somme d'argent que l'un demandait 100, que l'autre proposait 20, et que chacun avait fait un pas de 100, il était descendu à 80, de 20, il était monté à 40, mais on n'a pas pu se rapprocher plus. Il faut que, en cas d'échec, l'un puisse reprendre sa position à 100, l'autre puisse reprendre sa position à 20, et qu'on ne puisse pas lui dire « mais vous étiez prêt à abandonner ceci ou cela ». Donc la confidentialité, c'est un impératif au fonctionnement de la médiation. But de la médiation, encore une fois, c'est une autre façon de dire ce que l'on a déjà dit, la restauration des liens pour la promotion d'un résultat gagnant-gagnant. Résultat, bon, alors, gagnant-gagnant, c'est une expression qui est un petit peu galvaudée maintenant, un petit peu partout. En l'occurrence, ça signifie qu'à l'issue d'une médiation, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On a trouvé la voie qui permettait la restauration des liens, continuer à vivre ensemble, même si on ne vit pas ensemble comme avant le litige. La solution est trouvée de manière à ce que chacun s'en sorte sans être battu par l'autre, avec des avantages réciproques. Le médiateur. Le médiateur là-dedans, qualité du médiateur, compétence, impartialité, indépendance, neutralité, secret professionnel. Compétence, ça ne veut pas dire une compétence technique. Si le litige porte sur une voiture d'occasion qui tombe en panne, ça ne veut pas dire que le médiateur doit être un expert en automobile. Ça veut dire que le médiateur doit avoir la compétence en matière, et plutôt la pratique d'ailleurs, en matière de résolution de litige, en matière d'écoute, en matière de rapprochement des points de vue des parties, pour essayer de les amener à rechercher la solution. Mais on n'attend pas du médiateur qu'il soit compétent en matière de bâtiment, en matière d'informatique, en matière de tous les domaines qui peuvent, encore que ça peut être important. Ça peut être important dans certains domaines particuliers, et on peut imaginer des médiations sur des questions importantes où un expert serait amené à concourir à la médiation. Impartialité, ça c'est important, ça va de soi. Le médiateur ne doit pas avoir partie liée avec l'une ou l'autre des parties. Indépendance, c'est une autre façon de dire la même chose. Neutralité, c'est encore une autre façon de dire la même chose. Secret professionnel, on l'a déjà vu, c'est l'assurance que jamais ce qui s'est dit en médiation ne sortira du cadre de la médiation. La base de la médiation, c'est la confiance. Les parties savent que le médiateur doit avoir les qualités en question et à partir de là, elles lui font confiance pour rechercher la solution à leur litige. Alors, médiation en pratique. Bien évidemment, la médiation, ça passe par des rencontres. rencontres qui ont lieu, alors, à trois. Il y a chacune des parties et le médiateur. Quand je dis trois, ça peut être, on peut avoir d'un côté deux personnes, de l'autre côté deux personnes et le médiateur. On peut avoir une personne et son avocat de chaque côté, c'est également possible. Mais enfin bon, il y a, c'est comme ça que ça se présente. Le médiateur pose le cadre de la médiation, il en rappelle les principes, il rappelle qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer une solution, que son rôle est d'être au milieu, mais qu'il est indépendant et impartial. Il rappelle le caractère volontaire de la démarche, la coopération des parties. Et le médiateur peut se retirer à tout moment du processus. J'ai indiqué tout à l'heure que les parties pouvaient se retirer à tout moment du processus, que la médiation était tout au long de son déroulement un processus volontaire de la part des parties. C'est également un processus qui nécessite que le médiateur ait lui aussi la possibilité de s'en retirer s'il considère que les conditions de la recherche d'un accord ne sont pas réunies, notamment si l'une des parties est en position d'abus d'autorité vis-à-vis de l'autre. Si on n'a pas ces conditions d'égalité des rapports et si l'on ne parvient pas à les rétablir, eh bien, il faut que le médiateur en tire les conséquences et que, si c'est le cas, il se retire de la médiation. La phrase suivante pour toute réunion de médiation en entreprise, mais ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier, la médiation en entreprise, je ne sais pas si ça nous concerne ce soir, chaque partie peut être représentée par un représentant de la société, ça c'est le cas où deux entreprises sont en litige. Ça se produit également, ce n'est pas seulement entre les particuliers la médiation, ça peut être également dans un cadre professionnel. On peut avoir également une entreprise cliente, une entreprise fournisseur, deux entreprises qui sont en concurrence, on peut avoir un certain nombre de cas de médiation d'entreprise, mais encore une fois, c'est un petit peu probablement en dehors du cadre de ce soir. Toute personne peut être assistée d'un avocat, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Ça va être le cas lorsque la médiation intervient à l'intérieur d'un procès. La médiation judiciaire dont on parlait tout à l'heure, celle qui résulte de la loi de 95, celle dans laquelle le juge invite les parties recourir à un médiateur. Donc les parties sont déjà en procès, elles ont donc chacune un avocat. Ça peut être aussi dans le cadre d'une médiation volontaire où les parties choisissent d'être assistées par un avocat alors que le procès n'est pas en cours. Le processus doit se dérouler dans les meilleurs délais. Alors, si l'on est dans le cadre d'une médiation judiciaire, le délai, c'est 3 mois, ce qui est tout de même un délai bref. Le procès est suspendu pendant ce délai de 3 mois pour permettre la recherche d'un accord. Le médiateur ne transmet aucune information reçue, sauf autorisation expresse des parties. Ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Les parties ont l'assurance que ce qui se dit en médiation ne sortira pas du cadre. Et notamment, si l'on est dans le cadre d'un procès, que le médiateur n'ira pas dire au juge ce qui s'est passé en médiation. Si la médiation a réussi, elle se traduira par un protocole d'accord. Si elle a échoué, elle se traduira par rien. À la limite, un document dans lequel il sera écrit une seule phrase que l'on n'a pas réussi à s'entendre. Il n'y aura pas autre chose, il n'y aura aucun compte-rendu qui circulera. Les parties peuvent se retirer à tout moment de la procédure, nous l'avons déjà vu. Le médiateur indique la possibilité d'entretien séparé. Alors ça, c'est effectivement une particularité dans la médiation. Lorsqu'on est dans le cadre du procès, tout est contradictoire. Contradictoire, ça veut dire que tout ce que dit l'un, l'autre en a connaissance. Tout document que l'un met dans le débat, l'autre en a connaissance. Les audiences devant le juge se passent en présence de tout le monde. Chacun sait précisément quels sont les arguments de l'autre. En matière de médiation, on a constaté depuis très longtemps que ça n'était pas toujours bon que tout se dise en public et que pour débloquer les choses, il pouvait être nécessaire que l'une des parties ait un entretien en tête-à-tête avec le médiateur, à charge que ça se passe la même chose vis-à-vis de l'autre, bien entendu. Il ne s'agit pas de créer une inégalité, il ne s'agit pas de créer une partialité, là où il doit y avoir impartialité. Mais le fait d'avoir des entretiens séparés, on dit quelquefois des choses qu'on ne dirait pas en face de l'autre. Et ça permet quelquefois de faire avancer les choses. Déroulement de la médiation, les partenaires devenus adversaires décident de soumettre leurs différends à un médiateur. Comment s'y prendre ? On l'a déjà aperçu, lors d'un procès médiation judiciaire, les partenaires ont demandé au juge de désigner un médiateur, ou bien c'est le juge qui a proposé d'ordonner une médiation, le médiateur sera directement saisi par le tribunal. Bon. Ça, on le voit peut-être pas assez souvent, parce que les juges n'ont pas toujours le réflexe, et les avocats non plus. Les avocats tiennent souvent à ce que la question soit tranchée. Mais on le voit de plus en plus souvent. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la médiation familiale, mais ça n'est pas le seul. On voit souvent des juges qui aperçoivent que le procès pourrait se régler autrement que par une décision imposée. Ou bien les gens qui viennent dire au juge « mais peut-être que il reste une place pour la discussion ». Et là, avec l'accord de tous, bien évidemment, on est toujours dans cette démarche volontaire. Avec l'accord de tous, le juge peut désigner un médiateur. Deuxième hypothèse, en dehors d'un procès, les parties prennent contact spontanément avec un centre de médiation, ou bien elles le font en vertu d'une clause de médiation qui figure dans leur contrat. Alors, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, en matière de vente d'un fonds de commerce. En matière, on peut prévoir dans le contrat que si un litige survient, on aura recours à un médiateur. Ou bien en dehors de tout contrat, on peut décider un litige de voisinage, un litige entre des parents qui se séparent, ou tout autre litige. On peut interroger la partie avec laquelle on est en conflit, ou on peut se tourner vers le centre de médiation à qui on demande d'interroger l'autre partie. Êtes-vous d'accord pour soumettre ce litige à la médiation ? Si l'on est d'accord, on signe un contrat de médiation et ce contrat de médiation va rappeler les points que nous avons déjà abordés, la confidentialité, la loyauté. La loyauté, en l'occurrence, ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès pendant qu'on discute et on fixe par ailleurs un calendrier de rendez-vous de médiation. Le coût. La médiation, ça n'est pas gratuit, ça n'est pas une manière de régler les litiges qui seraient des petits litiges qui ne mériteraient pas qu'on règle des honoraires. Le médiateur est un professionnel, il demande des honoraires et il peut y avoir des coûts supplémentaires. Étant précisé que tout cela... c'est pas en plus, c'est à la place du procès. Et que quand on fait le bilan, ça reste quand même quelque chose qui est normalement moins cher que le procès. Le coût est en principe partagé par part égale, c'est la règle. Si on se met d'accord, eh bien on partage les frais. Mais on peut également décider, ça peut être l'une des conditions de l'accord, que les frais seront réglés de manière différente que par moitié. Si l'on tombe d'accord, on signe un protocole d'accord. À l'issue de la médiation, on rédige un protocole d'accord. Si les parties sont assistées par un avocat, ce sont les avocats qui rédigent le protocole d'accord. Alors, trois questions. Qu'est-ce qu'un protocole d'accord? Quelle est la validité et peut-on le faire homologuer? Le protocole d'accord, c'est bien entendu donc le document par lequel on couche sur le papier les termes de l'accord et qui est intervenu. Quelle est sa validité? C'est un contrat. Il oblige les parties. Il a un lien d'obligation. Les parties sont obligées à l'exécution du protocole d'accord. Et si elles n'exécutent pas volontairement le protocole d'accord, il est toujours possible derrière d'aller demander à un juge de l'homologuer, à partir de quoi il deviendra exécutoire. Donc, le but de la médiation, le terme de la médiation, les parties se font confiance, formulent des promesses réciproques qui sont retranscrites dans un protocole d'accord, lequel protocole d'accord organise les modalités d'exécution. Il est dit que la médiation fait plus appel à l'équité qu'au droit positif. C'est vrai que la différence avec un jugement, c'est que le juge, il est tenu d'appliquer la loi. En médiation, on peut aller rechercher d'autres solutions, qui sont des solutions qui ne sont pas forcément commandées par la loi. Alors, citons un exemple. Un litige entre un employeur et un salarié à l'occasion d'un licenciement. Le salarié est employé depuis 20 ans dans la même entreprise. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a des qualités. Et puis, pour un certain nombre de raisons, l'employeur va décider de mettre fin au contrat de travail. Il y a un recours judiciaire. Le recours judiciaire, c'est le Conseil de prud'homme. Le Conseil de prud'homme va dire si le licenciement obéit à une cause réelle et sérieuse. Si c'est le cas, le salarié partira les mains vides. Si ça n'est pas le cas, le salarié recevra une indemnisation. On peut imaginer qu'une médiation débouche sur autre chose que le tout ou rien. Et on a un certain nombre d'exemples. J'ai l'exemple, par exemple, d'une médiation dans un cas comme celui que je viens de citer, où finalement, après discussion, eh bien, il est apparu, l'employeur a pris conscience de ce que licencier un salarié ayant une grande ancienneté qui s'était impliqué dans l'entreprise, ça méritait une compensation et qui n'était pas forcément une compensation pécuniaire. Le salarié, de son côté, a pris conscience de ce que les dommages-intérêts qu'il réclamait n'apportaient pas forcément la réponse qu'il attendait, parce que c'est bien gentil d'avoir des sous, mais il faut aussi retravailler. Et dans l'exemple auquel je pense, eh bien, la compensation qui a été apportée a été de nature mixte. Ça a été une partie en argent et une partie par l'investissement qu'a consacré l'employeur pour assurer une nouvelle formation professionnelle qui permettait à son ancien salarié de se replacer sur le marché du travail et de rechercher un emploi dans de bonnes conditions. Voilà un exemple où la médiation a apporté une solution que la justice n'aurait pas pu apporter. La solution judiciaire, elle est prévue par la loi, c'est est-ce que le licenciement est justifié? S'il est justifié, le salarié n'a rien. S'il n'est pas justifié, le salarié reçoit une somme d'argent. Mais c'est tout. Il ne peut pas y avoir d'autre solution que celle-là. Un juge ne peut pas décider autre chose. Alors que la médiation peut permettre de rechercher une autre solution que celle qui est prévue par la loi. Conclusion, j'avoue que ce qui a été prévu sur le PowerPoint est un petit peu redondant par rapport à ce qu'on a déjà dit. Efficacité, liberté, rapidité, durabilité, maîtrise, moindre coût, ce sont des questions qu'on a déjà abordées tout au long de mon exposé. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour essayer de vous convaincre des atouts de la médiation, et je répondrai avec plaisir à vos questions. Alors, à proprement parler, non. Dans la mesure où il n'y a pas de centralisation. Ce que l'on constate tout de même, c'est qu'on aboutit à des solutions positives. Alors, je ne vais pas vous dire des chiffres, puisque précisément, je viens vous dire que je ne pouvais pas vous en donner, mais dans une majorité de cas. Hein. Bon, le fait que les gens... Et cette démarche volontaire de venir en médiation, c'est déjà extrêmement important. On arrive très souvent, à partir du moment où le processus est engagé, à avoir un résultat positif. Dès lors que les parties y viennent volontairement, et que ça n'est pas simplement une volonté affichée, mais une volonté profonde, on a quelquefois l'exemple de gens qui viennent à reculons, et là, c'est une garantie d'échec à l'avance.
Est-ce que tous les médiateurs sont avocats ou y a-t-il une formation ?
Alors, tous les médiateurs ne sont pas avocats. Vous avez à Poitiers trois organismes de médiation. Il y en a deux qui font de la médiation familiale, et uniquement de la médiation familiale. Et puis le troisième, qui est l'organisme auquel j'appartiens, qui est un organisme donc créé par des avocats, qui est un organisme généraliste, qui fait de la médiation dans tous les domaines. Et nous avons parmi nos médiateurs essentiellement des avocats, mais pas seulement. Nous avons un expert comptable, nous avons un notaire retraité, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des gens qui, pour un certain nombre de raisons, s'intéressent à la médiation. Alors, vous avez posé la question de la formation. Tous les médiateurs, quelle que soit leur origine professionnelle, suivent une formation. Une formation de base et une formation continue. Alors, qui est une formation destinée à acquérir cette pratique de l'écoute et de la résolution des conflits autrement que par la voie classique judiciaire. C'est vrai que l'avocat, sa tendance naturelle, ça va être de poser sur un conflit la règle de droit qui va avec. Et il imagine à partir de là quelle peut être la solution. C'est de cela précisément qu'il faut se départir. Car le médiateur n'a pas cette mission de dire le droit. Précisément parce que la solution du conflit, elle n'est pas forcément une solution qui soit à 100% conforme à la loi. Alors, quand je dis conforme à la loi, qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas non plus de faire le contraire. Et dans des domaines où la loi est impérative, d'aller imaginer une espèce d'arrangement ou de dérogation ou je ne sais quoi. Mais j'ai cité un exemple tout à l'heure, on peut imaginer dans un certain nombre de domaines des solutions qui soient autres que celles qui est prévues par la loi. Donc la formation juridique, c'est bien, mais il faut savoir en sortir. Alors, ça, c'est la question piège. Si je vous dis que tous les médiateurs sont parfaits, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis qu'il y en a des mauvais, vous...
vous...
Moi, je ne me permettrai pas de vous dire ça. Je ne me permettrai pas d'aller juger. Bon, non, bon, ce que je peux vous dire, c'est que tous les médiateurs, quelle que soit leur origine professionnelle, hein, en matière familiale, vous avez des médiateurs, et surtout des médiatrices d'ailleurs, qui ont pour origine l'Institut régional du travail social. Vous avez beaucoup de gens dans ce domaine et qui ont des compétences avérées. Hein. Moi, je ne me place pas le terrain de la concurrence. Hein. Bon, quelle que soit leur origine, vous avez l'assurance que les médiateurs ont suivi une formation adéquate. Vous avez l'assurance qu'ils ont une pratique professionnelle. En outre, pour ce qui concerne le centre auquel j'appartiens et que je connais, nous avons un comité de désignation. Je vous disais tout à l'heure que le médiateur n'était pas un technicien, mais selon le domaine du droit qui est concerné par le litige, on va désigner plutôt un tel qu'un tel. Bon, il y en a qui sont plus orientés en matière familiale, il y en a en matière commerciale, il y en a en matière sociale, etc. Bon, donc, ça, ce sont de bons indices. Alors maintenant, les qualités personnelles des hommes et des femmes, effectivement, il y en a qui ont plus la sensibilité, l'écoute, etc. Bon, mais ça, ce sont des qualités personnelles. Encore une fois, c'est difficile de porter.
Il faut que ça accroche.
On trouve les coordonnées dans les pages jaunes de l'annuaire. Donc pour ce qui concerne le centre de médiation auquel j'appartiens, il s'appelle le centre de médiation de Poitiers, vous le trouverez dans les pages jaunes et vous trouverez également un site internet.
Et par rapport au coût, parce qu'effectivement je connais quelqu'un donc, qui a fait appel à un médiateur et qui m'a dit que ça ne lui avait rien coûté.
Alors
c'est dans les têtes, c'est vrai que la
est... Alors là qu'on s'entende bien, effectivement, il y a les cas où ça coûte rien, ça n'est pas forcément la médiation dont je viens de parler, ça peut être une des autres formes de médiation.
Hein?
Voilà, c'est ça. Là, vous payez rien. Voilà, c'est ça. Hein? Mais la médiation dont on vient de parler... Vous avez affaire à des professionnels qui vous demandent un honoraire. Là, oui.
Et qui sont de quel ordre ?
Alors, c'est au temps passé. Nous demandons pour les médiations les plus simples un honoraire sur la base de 100 euros de l'heure.
C'est raisonnable.
Hein, étant précisé que bon, la première séance de médiation dure habituellement 2 heures, quelque chose comme ça. On aperçoit au bout de cette première séance de médiation si ça vaut le coup d'en faire une deuxième ou pas. Si véritablement on a des positions qui sont braquées, qui sont impossibles à rapprocher et des gens... ou en tout cas l'un des deux. C'est quelquefois les deux sont véritablement intraitables. Quelquefois, il y en a un qui hurle, qui veut aboutir à rien. Bon, à ce moment-là, on arrête. Si au bout des 2 heures, on voit que le processus est engagé, mais qu'on n'est pas tout à fait au bout, on programme 2 nouvelles heures. Ça peut se reproduire. Mais enfin, quand on a fait 2 séances de 2 heures, déjà, on a souvent résolu beaucoup de choses.
J'ai entendu parler d'une autre procédure aussi qui est prise par décret en début d'année qui se rapproche plus de la négociation directement proposée par l'avocat.
La procédure participative. La procédure participative. Alors, si vous voulez, c'est, 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 c'est assez différent de la médiation. Ça participe en tout cas de la même approche du conflit. Ça va consister à ce que... On n'a pas un tiers. On n'a pas un médiateur qui soit un tiers. On a une négociation entre les parties assistées par leurs avocats qui vont rechercher ensemble une solution au litige et qui, si elles n'y parviennent pas, vont tout de même arriver ensuite devant le juge avec une trame qui va faciliter la suite de l'affaire, du règlement de l'affaire. On a réglé ceci, on n'a pas réglé cela. Voilà. Bon, donc ça permet soit de régler intégralement, soit d'avancer dans le règlement. Mais la différence avec la médiation, c'est qu'on n'a pas le médiateur au milieu. Ah, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, c'est sûr. On n'a pas recours aux deux. On choisit, oui. Oui, oui, oui. Tout. Alors, la procédure participative nécessite que les personnes soient assistées par un avocat. Donc, la formation est longue à ce niveau. Maintenant, choisir de recourir à la médiation, effectivement, ça peut se faire. L'information, vous allez la chercher ce soir ou par d'autres moyens, mais effectivement, il n'y a pas d'information obligatoire. Alors, la formation, il existe divers organismes de formation. Il y a des organismes universitaires qui délivrent des formations longues et complètes. Et puis, il y a des organismes privés de formation qui délivrent... Alors, une formation initiale, on exige au départ assez peu de choses, c'est 40 heures. Qui est suivi ensuite d'un complément de formation. Étant précisé que ce qu'on fait également beaucoup au sein de notre centre de médiation, mais ça se pratique ailleurs, c'est la co-médiation. On est deux médiateurs souvent. Donc, quelquefois l'un plus chevronné que l'autre, ça permet d'avoir deux approches. Et puis, c'est également pour celui qui est moins chevronné un complément de formation. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Ça n'est pas le sujet. Le médiateur de la République, c'est... Alors, effectivement, bon, le médiateur de la République, c'est une institution à part, hein, qui s'appelle aujourd'hui le défenseur des droits. Le médiateur de la République... Alors, je crois que le médiateur de la République a d'excellents résultats. Hein. Il publie un rapport tous les ans. Les résultats sont bons. Mais je dirais que... L'institution du médiateur de la République, elle répond également... Alors, il ne s'agit pas simplement de résoudre le conflit individuel entre une personne et une administration. Il s'agit de ça, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de l'amélioration, d'une manière générale, des rapports entre l'administration et le public. Et sur ce terrain... Je crois que le médiateur de la République arrive à améliorer les pratiques de l'administration, ce qui est une excellente chose.
Il publie un rapport annuel,
oui.
Et en général, les médiateurs qu'on a eus étaient des jeunes de grande qualité,
oui.
Parce qu'il y a eu le président des maires de France, j'ai oublié son nom, mais que je connais bien. Localement, on a eu l'ancien secrétaire général de mairie, Pierre Mettet, que vous devez connaître d'ailleurs.
Oui, parce que le médiateur de la République, il y a un médiateur de la République, et puis ensuite il y a des correspondants un petit peu partout en région. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, ce sont généralement. Alors, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure sur l'impartialité, voilà quelque chose qui vient à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que finalement, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont une émanation de l'administration. Donc, qui ne sont pas dans cette situation de neutralité, d'impartialité. Ils sont plus proches de l'une des parties, en l'occurrence l'administration, que de l'autre. Mais on constate néanmoins que dans la mesure où on choisit des gens qui ont des qualités personnelles fortes et qui peuvent faire preuve d'indépendance, même si leur culture personnelle les inciterait plutôt au contraire, on constate que ce sont des gens qui sont en situation d'aller dire à l'administration, eh bien là, vos pratiques, il faudrait y revoir. Quoi. Mais ça vient un petit peu à l'encontre de ce que je vous disais, mais d'un autre côté, ça conforte d'un certain autre point de vue ce que je vous disais. On n'est pas en présence de la médiation au sens dont qu'on a parlé tout à l'heure, puisque le médiateur de la République va pouvoir aller dire, et notamment dans son rapport, dans le rapport annuel, va pouvoir aller inviter l'administration à corriger ses pratiques. C'est-à-dire que il n'est pas dans la situation que je décrivais tout à l'heure du médiateur qui s'interdit de dégager lui-même une solution et qui, au contraire, va avoir pour seul but de faire émerger la solution émanant des parties en conflit. Là, on est sur un terrain un petit peu différent. Hein. Il va précisément prendre position. Et souvent contre celui dont il est l'émanation.
On peut signaler ce qu'on peut appeler l'abus de droit ou la mauvaise interprétation du droit.
Oui.
Et il y a des résultats, il y a des gens qui se félicitent d'avoir été consultés, les médiateurs locaux qui ne s'appellent plus médiateurs d'ailleurs, ils ont un autre nom.
Je crois que c'est le défenseur des droits.
Voilà, défenseur des droits.
Ce sont les litiges avec l'administration.
Avec toutes les administrations.
Ça peut être l'administration fiscale, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être toutes les administrations. Non.
Mais pas dans les litiges émanant des affaires de la famille, bien sûr.
Ah non. Là, on est véritablement, c'est autre chose, là. Ah oui, bien entendu. Hein. Bien entendu, si effectivement le litige apparaît ne pas pouvoir être résolu par la voie de la médiation, c'est le retrait. Oui. Mais c'est moi qui vous remercie. Oui, mais un bon arrangement vaut encore mieux. Merci, mesdames, et bonsoir.
Bonsoir, mesdames.